Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Seigneur, merci parce que dans cette louange imparfaite des gens, nous sentons des choses indicibles.
Que sera-ce
le jour où nous allons revêtir la perfection?
Nous
te chanterons avec perfection.
Mon
âme attend ce jour.
Mon âme
espère ce jour.
Mais en
attendant ce jour,
instruis
ton peuple.
Avertis
ton
peuple.
Encourage ton
peuple.
Réajuste.
Fais-le
au travers de ta parole.
Au
nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
J'aimerais nous inviter à lire nos deux passages principaux. Premier livre de Samuel au chapitre
2.
Versets 12 à 17 d'abord.
Mais
vous pouvez aussi ajouter la fourchette allant du verset 22 au verset 24. Et à cette première portion, nous ajoutons Proverbe.
Chapitre 19.
Et le seul verset
13.
Alors nous lisons la première portion. Dans notre version, lui, second, il est dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Et les termes pervers là en hébreu dire qu'ils sont mauvais au dehors parce que dedans il n'y a rien de bon.
Mais
quand ils ont plusieurs versions, la colombe, parole de vie, parole vivante, et même les semeurs, il est dit les fils d'Élie étaient des vauriens.
Ils
ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents,
ils
piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le freinaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra des trois points de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait,
quand
on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira.
Les
serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22 à 24. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui venaient s'assembler à l'entrée de la tente d'assignation, un endroit sacré désacralisé. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? La chose n'était pas cachée, car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions, célèbres, mais pour de mauvaises choses. Non, mes enfants, ce que j'attends dire n'est pas bon, et les termes bons là veulent dire profitable. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel.
Et
lisons Proverbe au chapitre 19, le seul verset 13. La version lui second dit, un fils insensé est une calamité pour son père. Calamité, un mal à grande échelle. Un fils insensé est une calamité pour son père. Cet enseignement, nous allons l'aborder en 5 points. Il y a premièrement une introduction générale dans laquelle nous verrons la définition des termes. Et nous verrons aussi la motivation ou les pourquoi de cet enseignement. Nous essaierons de définir parents c'est quoi, vauriens c'est quoi. Et nous ferons ressortir quelques caractéristiques des vauriens. Le chapitre 2 qui sera abordé à partir de demain. Le deuxième point, mais qui est le chapitre 1. Nous l'avons intitulé « D'où viennent les vauriens ?» Et nous verrons la responsabilité des parents. Et nous verrons la responsabilité des enfants. Le troisième point qui est le deuxième chapitre, nous avons intitulé « Comment éviter d'avoir des vauriens ?» Car il y a possibilité d'éviter cela.
Ce
n'est pas une fatalité.
Le
quatrième point, mais qui sera le troisième chapitre, n'y a-t-il donc aucun espoir pour eux, pour les vauriens ? Ou est-ce que cette condition est-elle irréversible? Et cinquième point qui est le quatrième chapitre, nous parlerons du rôle de l'Église.
Le
rôle de l'Église quand vaurien il y a, qu'est-ce que l'Église peut faire? Donc très j'aimerais mentionner un certain nombre de choses que j'estime d'une grande importance. Par rapport au pourquoi, par rapport au but de cet enseignement. La première, c'est que le but de ce séminaire n'est pas que des hommes et des femmes prennent note. Ah, j'encourage que vous ayez des calepins, que vous puissiez noter, mais le but, ce n'est pas que vous puissiez dépenser de l'encre noire, noire sur blanc. Le but n'est pas seulement que vous soyez rempli d'une quantité et d'une qualité d'information. Deuxième chose, le but de ce séminaire n'est pas que des hommes et des femmes acclament, applaudissent à l'œil de certaines vérités, même si cela ne me dérangerait pas qu'on les fasse. Ce que je vise, ce n'est pas que les gens disent « Amen, Amen, prêche, prêche, c'est la vérité, c'est pas ce que je vise. » Troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est que le premier but de ce séminaire est double. C'est informer et former. Ou mieux, informer pour former. C'est-à-dire apporter des informations sous forme de nouveautés ou sous forme de rappels dans le but de modeler, dans le but d'exercer une influence. Le but, c'est amener des hommes et des femmes à l'action. S'il n'y a pas l'action, après, ça ne sert à rien. Quatrième chose que j'aimerais mentionner, qui est le deuxième but de ce séminaire, c'est l'encouragement. C'est-à-dire faire un clin d'œil aux hommes et aux femmes, parents comme enfants, qui ont déjà compris le rôle et l'importance de l'éducation dans le devenir d'un individu ou d'une société et qui travaille pour que celle-ci puisse avoir sa place, de les encourager à aller dans la même direction. Cinquième chose que j'aimerais mentionner, qui est le troisième but de ce séminaire, c'est l'éveil. Faire prendre conscience à certaines personnes de l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation dans la vie d'un enfant. Et là, je vise deux acteurs principaux et les parents qui sont à la base de l'éducation. Et les enfants qui bénéficient de l'éducation. Quelqu'un a dit l'éducation est à l'âme, c'est que la sculpture est pour un morceau de bois. J'aimerais le répéter, l'éducation est à l'âme, c'est que la sculpture est pour un morceau de bois. Sans l'action du sculpteur, les morceaux de bois restent quelque chose de rude, sans importance. Mais quand le sculpteur vient donner des coups, et si le bois pouvait parler, il vous dira, ces coups, ce ne sont pas des caresses. Ah, si le morceau de bois qui est transformé en cygne ou en, je ne sais pas moi quel oiseau, que les gens se mettent à louer, si je peux vous dire, vos louanges ont eu un prix des coups que j'ai reçus. Il est bon que ces acteurs comprennent cela. Un homme de Dieu a dit, je crois que les 9/10 des hommes que nous connaissons sont ce qu'ils sont, bons ou mauvais, utiles ou nuisibles, par l'absence ou la présence de l'éducation. Sont bons ou mauvais, utiles ou nuisibles, par la présence ou l'absence de l'éducation. Et il est bon que ces acteurs les comprennent. Et un homme parlant aux enfants dira que l'éducation n'est jamais imposée. Toute éducation peut échouer parce que celui qu'on éduque est un homme. C'est-à-dire un être libre qui a le pouvoir de dire oui ou non. Et ce pouvoir est sacré. Dieu a créé l'homme un être libre. Et déjà dans les jardins d'Éden, il a respecté la liberté de l'homme. Enfant, que faites-vous de ce précieux pouvoir appelé liberté? La sixième chose, qui est le quatrième but de ce séminaire, c'est un but curatif. Peut-être des lacunes ont été constatées. Peut-être qu'il y a un mal, soit latent ou avancé. Nous adieu que ce séminaire puisse les révéler et aussi pourquoi pas les éradiquer. Septième chose qui est le cinquième but de ce séminaire, c'est un but préventif. Nous allons parler des choses qui peuvent arriver en montrant ce qui consciemment ou inconsciemment amène à ce que des vauriens existent. Aucun parent ne s'élève en disant, moi je mettrai au monde un vaurien. Aucun enfant s'élève en disant, moi voilà le style de vie que je veux mener. Mais ceux qui arrivent à le devenir et des parents qui arrivent à avoir ce genre d'enfants ne l'ont pas toujours voulu. On a toujours tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. On a tendance à voir cela comme des choses lointaines. Je tremblais de tout mon corps samedi. Quand il y a quelques jours, j'étais loin d'ici. J'étais invité par un ami pasteur à manger. Je l'ai vu et lui et sa femme en train de pleurer. Ils servent le Seigneur depuis une vingtaine d'années. Leurs enfants ont grandi dans l'église. Leurs filles ont toujours. Je les ai connus petits, je les ai vus grandir. Les deux me parlaient en pleurant. Depuis 2 mois, leur fille aînée est enceinte. Et
les combats,
je
ne
peux pas dire de qui vient la grossesse parce que elle s'est amusée avec plusieurs jeunes gens. Souvent, on a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Je revois la douleur de cet homme quand une fois je suis en Amérique du Nord. Il est arrivé 5 ans, il s'est battu pour faire venir sa femme et son deuxième garçon qui avait 16 ans en arrivant. 3 ans après, il commençait à avoir des fréquentations bizarres, mais il ne comprenait pas. Jusqu'au jour où son garçon vient lui dire, à tel endroit des États-Unis, on célèbre les mariages entre homosexuels. Je vais aller me marier avec mon ami. Et quand il a, cet homme a demandé quel ami, c'était un monsieur de 43 ans. Ah, ça n'arrive qu'aux autres. Je vous ai souvent relaté cette histoire ici. Jeune dans la foi, jeune aussi en tant que parent. Jeune dans les ministères.
94.
Je suis au bureau avec notre fille aînée qui avait une année et demie, deux ans tout au plus. Et une maman est venue me parler. Alors que ma fille, notre fille tournait à côté. J'ai vu cette femme commencer à pleurer en disant, et pourtant il y a quelques années elle était comme ta fille. Qui pouvait me dire que d'elle allait sortir les monstres que je vois aujourd'hui. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe?
Il
me dit, ma fille qui a moins de 20 ans, je pense 18 ou
19
ans.
Elle
me dit, depuis 3 ans, elle vance encore sur le boulevard
Chet.
Qui peut être fier d'avoir un tel enfant? Quand elle a dit ça, j'ai regardé ma fille. Et j'ai tremblé. Ça n'arrive qu'aux autres. On a difficile à croire qu'un jour ça peut nous arriver. C'est pourquoi prévention. Le huitième point qui est le sixième but, c'est apporter un message tardif, anachronique, mais utile. C'est-à-dire un message bien qu'utile, mais arrive au mauvais moment. À un moment où soit tu peux servir pas grand-chose ou à rien. Parce qu'il s'adresse à ceux qui n'ont plus la capacité d'influencer les enfants. Ils ont tellement grandi, ils sont partis. Ils ont connu le Seigneur tardivement, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait. Quand ils voient leurs enfants aujourd'hui, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, ils savent parce qu'ils n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû apporter. À vous aussi, ce message s'adresse pour deux objectifs. Premièrement, enfin, que vous soyez de ceux qui allaient parler aux autres, leur dire, moi je n'ai pas fait ça, vous faites cela. Vous serez mieux habilité, mieux qualifié pour dire, moi je suis une preuve vivante que quand on ne fait pas ceci, voilà où ça mène. Moi, me trompant, ça suffit. Ne soyez pas un autre moi.
Mais
deuxièmement, ça s'adresse aussi à eux enfin qu'ils soient des intercesseurs. Qu'ils prient pour les parents d'aujourd'hui en disant que eux fassent mieux que moi. Donnons-nous des parents qui prient pour le petit-fils. Ah, s'ils n'ont pas pu prier pour leurs enfants, ils peuvent prier pour les enfants de leurs enfants. Parce qu'entre temps, le Seigneur les a visités. Neuvième chose, qui est le septième but. Le but ultime et même la raison d'être de ce séminaire est le changement. Si après ces quatre jours, un homme devient meilleur père, une femme devient meilleure mère, nous aurons atteint notre objectif. Si un jeune homme ou une jeune fille pas encore mariée prend la résolution demain de jouer mieux son rôle, nous aurons atteint notre objectif. Si un enfant petit en âge se décide, je ne veux pas être un vaurien, je ne veux pas créer des problèmes à mes parents, nous aurons atteint notre objectif. Dans notre thème, il y a deux concepts principaux. Il y a parents et vauriens. Dans notre conception, le terme parent a trois axes par lesquels nous pouvons définir. Premièrement, parent, pour nous, veut dire géniteur. Personne qui a donné la vie. personne qui biologiquement a donné la vie, qui la protège et travaille pour son bien-être. Il y a des hommes et des femmes qui ont donné la vie. Alors ce message vous concerne. Deuxièmement, parent veut dire tuteur. Pas parent biologique, mais que quelqu'un qui le concours des circonstances a amené à avoir une influence, un rôle directeur sur un autre. Soit par l'adoption, soit les parents sont décédés et l'oncle ou la tante a récupéré les enfants. Ou soit c'était l'enfant d'un ami qui est parti des concours des circonstances ou a amené que vous puissiez avoir un rôle directeur. Soit même grand-mère parce que papa et maman sont partis. Ce message vous concerne aussi. Mais troisièmement, dans notre pensée, parents veut dire aussi ceux qui ont engendré spirituellement. Parce que la parenté ne se limite pas à l'aspect biologique. Qui a non seulement engendré spirituellement, mais celui qui a aussi la responsabilité sur le devenir de ceux qui sont sortis de lui. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens leur dira, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Et il est conseillé plus que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donnons-nous aussi des parents spirituels qui prennent conscience de leurs responsabilités. J'aimerais pas être le père spirituel d'un arnaqueur spirituel. Si tu te mets à faire des fausses prophéties pour avoir de l'argent auprès des gens, ne me présente pas comme ton père. Si tu t'amuses avec des jeunes filles, ne m'attache pas à toi. Non, pour ces prières, pour ces problèmes, Dieu m'a dit on va faire la prière bouche contre bouche, nez contre nez. Ventre contre ventre. J'ai 26 ans dans la foi, 23 dans le ministère. Je n'ai jamais fait cette prière, même si elle est biblique. Alléluia.
Amen.
Parents, mais aussi dans la spiritualité. Mais le concept capital, c'est le concept vaurien. Ce concept cache 6 idées principalement. Vaurien étymologiquement est formé de 2 mots. Vaut, du verbe valoir. Rien.
Pamba.
En vaurien. Dans ces termes, on voit l'idée de la valeur. Qu'est-ce donc une valeur? C'est une qualité physique, intellectuelle ou morale d'une personne qui la rend digne d'estime. Qu'est-ce donc encore la valeur d'une chose? C'est la qualité intrinsèque de cette chose qui objectivement la rend digne d'estime. Qu'est-ce donc encore une valeur? C'est l'importance ou la portée d'une chose. Encore la valeur. C'est l'importance estimée par un jugement, soit subjectif ou objectif. Deuxièmement, vaurien. Ces termes désignent un enfant ou une progéniture qui à cause de sa manière d'être et de faire produit deux choses. Premièrement, amène le mépris sur soi-même. À cause de sa façon d'être et de faire. Mais deuxièmement, amène le mépris sur ceux qui lui ont donné la vie ou ceux qui ont la responsabilité comme tuteur sur lui. Y a-t-il un vaurien ici ce soir? Peut-être ici pas. Y a-t-il un vaurien à Lisanga? Troisièmement, ce terme désigne aussi quelqu'un d'indiscipliné, quelqu'un qui n'a pas de limites. Quelqu'un qui n'a pas de limites, soit parce qu'il ne les connaît pas, ou soit on le lui a imposé, mais il aime toujours les outrepasser. Il a décidé de ne pas les avoir. Vaurien. Quatrièmement, ce terme désigne aussi quelqu'un qui est caractérisé par une chose essentielle. Faire de mauvaises choses. Des choses répréhensibles. Des choses honteuses. Il est fait en sachant qu'elles sont mauvaises ou alors il ne sait pas qu'elles sont mauvaises. Vaurien. Cinquièmement, vaurien, c'est quelqu'un qui ne rapporte rien. Quelqu'un à qui on a investi, qui en retour est improductif. Qui ne peut rien donner à soi-même et aux autres. Ne rapporte rien pour sa propre personne et ne rapporte rien à ses parents. Dans Philippiens chapitre 4, verset 1, Paul, comme un père spirituel, j'aime ce qu'il dit parlant des Philippiens. Il dit, vous êtes ma joie et ma couronne. Une autre version dit, ma fierté. Enfin, j'aimerais que vous sachiez. Les parents ne désirent pas toujours que vous leur donnez l'argent quand vous commencerez à travailler. Que vous leur achetez véhicule. Les parents ne sont pas des investisseurs. Ils désirent de petites choses. Ah, je peux revoir la joie de ma mère. Les jours où maman Viviane et moi on s'est mariés. Quand maman Cécile m'a fait entrer à l'église comme ça. Je voyais son sourire 28 ans parce qu'il en a perdu 4 en cours de route. Elle n'avait pas un sourire 32 dans elle, c'était 28. J'ai jamais su qu'il y avait un grain d'orgueil et de fierté. Maman Cécile, c'est quelqu'un d'humble. Mais ce jour-là, j'ai vu les épaules ont commencé à monter. Ce sont de petites choses comme ça qui leur font du bien. Dis-le en français, parce que les gens de l'internet disent que tu ne dis pas souvent. Dis-le en français.
Oh, Mado est engrossé et on va l'accompagner chez sa belle famille.
Traduis aussi les oh là en français. Est-ce que ça fait la joie d'un père? Non, Jackie avait eu un premier enfance à la maison, on l'avait pardonné, mais 2 ans après, il a eu encore un deuxième. La maman dit Alléluia. Vous êtes ma joie et ma couronne. Ah, je revois encore quand j'étais à l'école primaire. Les 2 juillet, maintenant les dates de la proclamation ont changé. Monsieur Harry Bertin aimait toujours venir aux proclamations. Je me souviens quand j'étais en 4e, on a proclamé, on a dit, Roland, premier de la classe. Je l'ai vu dans la masse, j'ai retourné. C'est comme si je venais dire aux gens, c'est mon fils. Mais quand tu arrives à la proclamation, et c'est pour ton fils qu'on fait soulever la poussière, l'échec, oh le le. Si on demande est-ce que c'est ton fils, tu diras non. 109.
Donnez-moi la case.
Ah, les enfants, nous ne vous demandons pas beaucoup.
Oh, bana, to senga kabino makambwebelete.
De petites choses.
Biloko amike mike.
Et des fois, nous travaillons dur pour vous pour ces petites choses.
Bana mozu to sala makati pona bino poka kana biloko amike mike.
Quelle douleur pour un parent qui apprend que sa fille a divorcé.
Pasi nini pona mokoti koka ete mwana na ya mwasi akabona libala.
Je revois la douleur de cet homme qui pleurait dans mon bureau. Parce que son beau-fils est venu l'accuser. Il a attrapé sa fille avec un autre homme, un ex-copain. La fille disant, c'est ma vie. C'est votre vie. Mais c'est aussi notre affaire. On raconte l'histoire d'un homme qui était dans une pirogue. Et ils étaient à plusieurs, ils étaient à cinq. Et puis ils ont décidé de dire, chaque partie de la pirogue devient un territoire. Chacun est souverain. Tout ce que je vais faire dans ma partie ne concerne personne.
Et
un jeune homme qui était au milieu a pris un clou et un marteau, il a commencé à frapper. Les autres ont dit, qu'est-ce que tu fais? Dis, souveraineté. Dans tout le cas, c'est mon problème. Quelqu'un d'autre lui a donné un bon coup.
Et
si on te laisse, ton problème deviendra notre problème. Parce que finalement, nous allons couler tous. Ne va pas avec ces garçons. Et puis un beau jour, on te voit vers 7h, tu vas dans l'école. Non, ce sont les ankylostomes.
Oui, ça va, Niyama.
Et notre passage central est 1 Samuel 2, 12 à 17 et 22 à 24. Nous présente quatre phases dans la vie de cette famille. Premièrement, nous voyons de jeunes gens qui se comportent d'une certaine manière. Ils sont pas disciplinés. Ils sont ignorants de la valeur des choses spirituelles. Et puis en plus, ils sont insolents. Ils étaient des fauriens. Ils amenaient ces fourchettes et ils prenaient les choses sacrées.
Wow.
Non, attends que la chair soit brûlée. Tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ils nous ont aussi montré qu'ils étaient légers sur le plan mœurs. Libertin et sans moralité. La Bible dit, Élie était fort âgé. Il a pris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a pris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Premièrement, il se comportait mal. Mais deuxièmement, ces comportements ont entraîné qu'on leur colle un qualificatif. Vaurien. Vaut rien. Une autre version dit des valent rien, des sans valeur. Ce qui ne rapporte rien. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. C'est que être vaurien n'a pas un seul visage. Être vaurien peut avoir plusieurs visages. Premièrement, être vaurien peut se présenter sous forme d'absence de valeurs morales. Un enfant voleur, un enfant pickpocket. Un enfant, quand vous allez chez les autres, un téléphone disparaît. On sonne, ça, on appelle, ça sonne chez lui. Là,
il jure de ne pas savoir comment c'est entré dans sa poche.
Deuxièmement, vaut rien.
Il
c'est quelqu'un dans qui est absent des valeurs spirituelles. Distant par rapport à tout ce qui est attaché à Dieu. Et notre relation ou non avec Dieu influence toujours notre moralité. Troisièmement, vaut rien. C'est quelqu'un qui fait montre d'absence pour la connaissance. N'aime pas l'école, n'aime pas les études. On avait un ami qu'on a étudié à l'école secondaire. Il était un anti-français. Zouz, il s'appelait. On avait un système de symboles qu'on appelait autrefois.
Donc,
quand quelqu'un parlait lingala, les symboles restaient chez lui. Si le symbole a passé la nuit 20 fois chez les gens, chez lui, c'est resté 19,9. Chaque fois qu'il en sonnait midi, pour lui, c'était comme une délivrance. Dès qu'on sonnait, on sortait à midi 5, tu lui parles en français, il dit, tika bilo, ça me tout passe.
Laisse ces histoires en merdant.
Il est bon, hein? C'est pas un vaurien. J'oublierai jamais Nzuzi. Un beau jour, on était dans la salle de classe, le prof a entendu un bruit derrière. Nzuzi, qu'est-ce qu'il y a? L'ami a dit non, c'est mon stylo. Il a posé la question à Nzuzi, mais finalement, c'est stylo, c'est les tiens ou c'est les siens? Il a dit non, c'est les tiens. C'est les tiens. C'est les tiens. C'est les tiens ou c'est les siens? Lui, ah, donc, moi, c'est les tiens. Non, c'est les tiens. Les gens qui disaient, mets la bouche que tu mettais hier. Quatrièmement, vaut rien, c'est quelqu'un qui fait montre l'absence de discipline.
Qu'on
ne sait pas arrêter. Cinquièmement, vaut rien, c'est quelqu'un qui a une absence de but et d'objectif à atteindre dans la vie. Qui tourne en rond et qui ne voit pas le temps passer. Ses amis qui ont 18 ans, 19 ans, sont en première gradation, lui en troisième, ça ne le dérange pas.
Est-ce
que tout le monde est fait pour les études? Bon,
Et les corps, à qui ça appartient?
Un jeune homme dans mon quartier disait, pasteur, moi les études c'est pas fait pour moi. Écoutez ce qu'il dit, moi je fais pour les corvées, les corvées. Les corvées qui rapprochent. Je n'ai même pas eu l'appui des termes corvées. Les corvées, les corvées. Et quand il est revenu dans ses corvées, je le voyais comment il parlait avec ses amis. Il lui demandait, tu lui diras bien en français. Bon, il dira, joli. Joli. Les quinois, ils sont forts. Bon, il comprend, joli.
Comment c'est à faire? Il dira, c'est parfait.
Mais ça, c'est un homme à épouser, hein? Dis-le encore, c'est parfait.
C'est parfait.
Voilà. Ça me rappelle le pasteur Kali, quand il m'a dit, quand son petit Obed a commencé à apprendre le français, il disait, papa, on dit pas petit, on dit petit. Phonétique, petit. Yeah! Bana loupio. Un vaurien, c'est quelqu'un dans qui il y a un renversement de valeurs. Pour lui, l'aléatoire devient le principal. Il n'a pas de priorité dans la vie. Vaurien. Il reste dans les coins des rues à discuter sur l'habit de tel musicien, les prix de tel habit. Bercy était plein.
Merci, il y a bien ce ton là qui.
Non, on avait couvert. Moi, je t'ai dit, là, il est qui dans le gamme, Nazoïb, so yonane.
C'est moi qui t'ai dit, toi qui es-tu?
Et il passe du temps. Du temps. Je te dis, quand ça connaissait, voilà, t'as ça, gis-toi, papa. Gis-toi. Tu vois, c'est tel que je t'ai venu là, ma bien lui. Lui, il n'écoute pas les messages, il regarde, pasteur à la tinée. Interprète à la tinée.
De quoi est-ce que le pasteur s'est habillé? Et son interprète.
Renversement de valeur. Mais enfin, en vaurien, c'est quelqu'un dans lequel il y a absence du sens de l'honneur. Il a
30-35
ans, mais toujours à la maison chez les parents. C'est disputant si on a laissé une petite boule de foufou. À 35 ans. Et quand il a fini de manger, il met une grosse culotte avec des jambes poilues, il vient là.
Avec son cure-dent.
Il fait même des renvois. Quoi? Pas de sens de l'honneur. Il veut même sortir pour aller quelque part. Papa, nous avons un bon ticket à 35 ans.
Papa, je peux avoir du transport. Mais pour tout comme ça, tu n'as mis tant.
Bon ticket, papa.
Le transport.
Troisième chose que ce texte nous montre.
On
y voit la douleur et même la très vive douleur d'un père. Mais causée par le style de vie des enfants. Je le disais, les enfants pensent souvent qu'ils sont des îlots indépendants. Par liés par un cordon ombilical, à cause soit de leur âge avancé ou de je ne sais quelle autre raison. Et pourtant la Bible, au travers de plusieurs passages, nous montre la relation intemporelle entre parents et enfants. Bien ou mal que les enfants font, se répercute sur les parents. Échec ou réussite des enfants influence et influenceront la qualité de vie des parents. Dans Genèse 24, verset 21 à 23, dans 1 Samuel 16, Versets 17 à 22. Et dans 1 Samuel 18. Versets 6 à 7. Nous voyons des parents être honorés. Non pas à cause d'eux-mêmes. Mais à cause des actes que leurs enfants ont posés. Genèse 24, 21 à 23. Les serviteurs d'Abraham voient cette jeune fille avec beaucoup de vertus. Polie. Serviable. Et serviable sans chercher l'intérêt. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, cet homme regardait avec étonnement. Pour dire une qualité d'enfant comme ça, ça existe encore. Prêt à appeler un inconnu, mon Seigneur. Prêt à demander à rendre service, est-ce que je peux donner à boire à toi et même à tous tes chameaux? Et la Bible dit, cet homme lui a posé la question de qui es-tu, fille? Quelle est l'usine qui a fabriqué une telle personne spéciale? Seigneur, donne-moi des enfants qui poseront des actes à l'extérieur et on cherchera qui a placé cela. Isaïe est chez lui à la maison. Il voit des gens venant de la cour royale. Nous sommes venus chercher ton enfant. Nous avons appris qu'il est beau, qu'il est habile. Il sait faire plein de choses. Et j'aime ce que la Bible dit. Il fit au service du roi. Il avait pris pour chanteur, mais il est garda comporteur d'armes. Il fit dire à Isaïe que ton fils reste avec moi. Quelle joie d'être Isaïe. Et vous voyez celui qui est à côté du roi. C'est mon fils. On est venu spécialement les chercher. Un cortège, la présidente est venu pour mon fils.
Que
dire? Les jours où les défis avaient été lancés au peuple de Dieu. Et durant
40
jours, personne ne répondait. Quand un jeune homme est sorti. Courageux. Il a dit au roi que personne ne puisse se décourager. J'irai me battre contre ces
Philistins.
Et il a donné son palmarès. Le roi s'est retourné vers l'un de ses généraux. Il a demandé de qui est-il fils? De qui est-il fils? Et finalement, quand Goliath est tombé, il a appelé le jeune homme. De qui es-tu fils? Donne-moi des enfants qui feront des choses. Et la gloire ne restera pas sur eux et que l'on puisse dire ils sont filles d'eux, fils d'eux. Si les enfants sont d'accord avec moi, dites amen.
Amen.
Je n'ai assez de jeunes gens qui avaient des actions de grâce un dimanche au mois d'août. Ils commencent par ce verset célèbre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pasteur, j'ai eu 42% et singoté.
J'ai eu 42%, ça c'est pas la joie, c'est la joie.
Pasteur, j'ai été refusé pour la troisième fois, donc gradué en premier graduat.
Pasteur, babengani ngambalami ça tu na premier graduat.
Rendez grâce à Dieu en toute chose, à votre égard la volonté de Dieu.
Ton ntambe na makambo nyonso peut être ça mon kano na ye.
J'ai un jeune homme qui a grandi avec moi à l'église, ses parents sont ici.
Et lenge mobali moko akola na ngana église ba botine bazali awa.
Patrick Bétonvouk.
Patrick Bétonvouk.
Nous l'appelait deux cerveaux.
C'est un nègre bengaye, Azana Bongomi Balé.
Il n'a jamais eu en dessin de 75%, des pourcentages que certains n'ont eu qu'en rêve.
Atika la kozana si à 75%, Obansou Bazouaron Kaganandoto.
Lauréat des examens d'État. Il va en Belgique, il réussit chaque année.
Akena Belgique, Mibounio Zouazouaka.
Médecin.
Monganga.
Je pense à 24 ou 25 ans. Aujourd'hui, il est spécialiste dans les malades de vieux. Un nom assez compliqué, je n'aimerais pas essayer de dire ça, c'est sinon un médecin va venir m'aider à la fin. Brillant.
Mayele.
Que dis-je? Brillantissime.
Mayele koleka.
Et ça fait du bien.
Pe, ça la kamalamu.
Donnons-nous des enfants qui comprennent ces choses. Mais quand les enfants font des mauvaises choses, ça touche les parents.
Dans
Proverbe 10, verset 1,
il
avait dit un fils sage, bien réglé dans sa conduite et dans son comportement, fait la joie d'un père. D'un côté, c'est quelqu'un qui se comporte, mais bizarrement, quand on parle de la joie touche quelqu'un d'autre qui n'est pas à la base du comportement.
Mais
on dit, mais un fils insensé.
Et donc,
les versions disent, sans discipline et léger dans son comportement, fait les chagrins de sa mère, fait les chagrins de celui qui l'a enfanté.
Waouh,
écoutez ce que Proverbe 23,
verset
24 à 25,
dit.
J'ai aimé ce passage. Il est riche et profond. La Bible dit ceci.
Le
livre des Proverbes, 24 à 25. Le père du juste est dans l'allégresse. Une version dit, le père de l'homme bien réglé dans sa conduite et dans l'allégresse. Mais celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Une autre version dit, le plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné la vie à un homme juste et sage. La version parole de vie dit, le père d'un enfant qui se conduit bien danse de joie. Mais j'aime la recommandation du verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. À cause de ta qualité de vie. À cause de ce que tu accomplis. À cause des choses qui sortent de toi. Sur le plan moral, sur le plan intellectuel, je ne sais dans quel domaine. Donne-moi ce soir des enfants qui diront, j'aimerais faire la joie de ces personnes.
C'est quelqu'un d'accord avec moi qui dit amen.
Amen.
Proverbe 15, verset
25.
Un fils insensé fait les chagrins de son père. Et crée des regrets dans le cœur de celui qui l'a enfanté. Et notre passage central, Proverbe 13 et 19, 13, dit un fils insensé est une calamité pour son père. Ah, mais j'aime surtout Proverbe 27. Verset 11. Il dit, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Et c'est ce que dit une version dynamique. Je pourrais m'en valoriser devant celui qui veut méconnaître ma valeur. Quand je n'aurai pas de valeur, c'est à cause de toi, moi j'aurai de la valeur. Seigneur, donne-nous des enfants qui comprennent ces choses. Aux enfants, je me redis, tout ce que nous sommes et faisons atteint nos parents positivement ou négativement. Soit ils nous les disent, soit ils ne les disent pas. Soit ils les font savoir, soit ils ne les font pas savoir. Des fois, leur fierté, c'est en secret, mais même quelquefois, leur souffrance, c'est en secret. Souffrance et fierté des parents ne sont pas toujours exprimer. Mais écoutez cette deuxième chose. Lorsque souffrance il y a, cela peut atteindre les parents à deux niveaux. Premièrement, ça les atteint simplement sur le plan émotionnel. Mais deuxièmement, ça finit par les atteindre physiquement. Ils sont honteux. Ils sont humiliés. Ils font hypertension. Vous ne savez pas. Mais c'est vous la base. À cause de ce que vous êtes. À cause de ce que vous aurez dû être et que vous n'êtes pas. Quand ils sont avec les amis, ils se vantent. Mon fils a fait ceci. Ma fille a fait cela. Lui n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Complexé. Souffrant. Ah, j'ai vu la souffrance de cette maman qui a quatre filles. Tout ont enfanté. La plus jeune a 18 ans, mais elle a deux enfants chez elle à la maison. Elle dit, j'aime pas aller au mariage des autres. Car j'ai 9 petits-fils, mais sans mariage. Ce que les enfants rapportent de positif ou de négatif affecte leur futur. D'Ephésiens chapitre 6, versets 2 à 3. L'apôtre Paul dit, honore ton père et ta mère. Le mot honorer, c'est le même mot qu'on utilise en hébreu pour dire kabod, gloire. Et le mot kabod veut dire poids. La Bible dit, enfant, rendez pesant vos parents. Que vos parents puissent peser dans la vie publique, peser aux yeux des autres à cause de ce que vous êtes et à cause de ce que vous avez. Et la Bible dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Quand le cœur de papa se réjouit, quand le cœur de maman se réjouit, tu as un manteau pour réussir. Quand tu le rends pesant, la Bible dit, tu seras heureux. Quand tu les rends pesants, tu as une longévité qui n'est pas liée par le fait de brosser 3 fois les dents par jour.
Il
y a des jeunes gens qui meurent tôt, qui partent aux fleurs de l'âge simplement parce qu'ils n'ont pas donné du poids. J'en parlerai quand je viendrai conclure. Certains manquent de donner du poids aux parents par commission. Injurier les parents, frapper les parents.
La bêta rivière double pâte.
Mais il manque aussi de les honorer par omission.
Par
des choses qu'ils auraient dû faire qu'ils ne font pas. Je me souviens qu'on était à l'école secondaire. En troisième. Vous savez, l'âge où les jeunes gens veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Je n'étais jamais allé à Brazza. Ma chaque rentrée scolaire pour faire grand devant les amis, je dis, j'étudiais les livres de géographie de la Belgique, je dis, on était en vacances à Jamblou. Brazza, je ne suis jamais allé. Je me souviens d'un ami qui avait changé même son lieu de naissance. Il avait écrit Gand. Il était né en Gandajika, mais il a enlevé les Ajika. Il a dit Gand, Gand. C'est une ville de la Belgique, Gand. Et je me souviens, cet ami faisait la cour à une jeune fille. Moi, je connaissais son père, je ne vais pas dire du mal. Les petits détails, il avait un problème, il était courbé. Et alors que nous étions là avec les jeunes filles qui voulaient émouvoir, Léa a dit, votre papa, il a dit, non, c'est mon père. Il a dit, cette chose peut être mon père. Des paroles comme ça, Dieu les entend. Il est ce qu'il est, c'est ton père. Honore-les. Quand je commençais à aller à l'église de la Borne, j'allais visiter les parents de mes amis, tous parlaient français, très bon français. La première fois, les amis sont descendus chez moi, j'ai dit, Naïma Romera français, t'es papa. Elle est lingalafone avec L majuscule. Mais c'est ma mère et je l'aime. C'est ce qu'elle est. Quand je connais mon épouse, oh, maman Angélique, ma belle-mère, oh, yoka français.
Maman Bokilo.
Mais Roland, tu sais, moi, je vois. J'ai dit, Viviane, tant trop que Namanianga, maman, bêta lingala.
Quand nous irons à Manianga.
Si tu sais qui tétait les alicots,
tu
sais.
Si tu sais parler de tétés, la parle.
Honore-les.
Nemi Abango.
J'ai jamais été complexé dans ma vie.
Na tikala kobanga te la bongo inangaye.
Quand j'amenais des amis chez moi, alors qu'on priait là-bas, quand j'allais chez 10 amis, chez 8, il y avait de la piscine. Elle m'a demandé, chez vous, il y a une piscine. J'ai dit, oui, mais quand il pleut. Parce qu'il y avait un grand loup-bois à coucher chez nous.
Parce qu'il y avait
qui se remplissait seulement quand il pleuvait. Mais je disais, les jours viendront où j'aurai une piscine qui n'attendra pas la pluie. Honore tes parents. Amen les amis chez eux, dit chez mes parents, je les aime comme ça. Quand mes amis venaient parler avec mon père en français, ils retrouvaient un bon francophone tété là. Quand ils s'éclamaient, ils disaient pas comment, ils disaient comment. On comprend. Mais c'est mon père. Il s'appelle Henri Bertin. C'est un homme merveilleux. C'est celui qui m'a donné la vie. C'est celui qui m'a éduqué. Je ne peux pas les changer. Je n'ai pas de vice-papa. Je n'ai pas de papa adjoint. C'est lui et c'est lui. J'aime le présenter avec fierté. Je l'appelle Monsieur le Directeur.
Monsieur le Directeur.
Honore ton père et ta mère. Honore-les. Et les enfants d'Eli n'ont pas honoré leur père. Et non seulement qu'ils ont fini mal, mais même leur père a fini mal.
1
Samuel 2, 29 nous dit, Dieu envoie un jeune homme qui vient parler à ses pères. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et il dit à Élie, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi?
Wow.
Mais le verset 34, j'essaie d'imaginer les coups de poignard que cet homme a dû ressentir.
Wow.
On vient lui dire, tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Ophni et Pinéas mourront tous le même jour. Et la Bible montre même le jour qu'on est venu lui annoncer la mort de ses enfants, il est tombé mort. Notre temps est passé, mais je mentionne ces cinq choses et puis on va prier un moment. Je vous prie de rester un moment. Première chose que j'aimerais mentionner, c'est que personne d'entre nous ne souhaite et ne programme avoir des
vauriens.
Mais cela peut arriver à tout le monde. Un sacrificateur a produit des vauriens. Un homme qui sacrifiait pour Dieu. Un homme qui connaissait la parole de Dieu et qui l'enseignait. A produit des vauriens. Deuxième chose que j'aimerais dire. Les vauriens. En étant vauriens font doublement mal. À eux-mêmes. Mais aussi à leurs parents. Troisièmement. Avoir des vauriens. Est toujours un choix. Un choix soit conscient ou inconscient. C'est un choix que l'on fait soit en le sachant ou on le fait sans le savoir, mais choix quand même. On devient producteur de vauriens par omission et par commission. Quatrièmement, chaque fois qu'il y a des vauriens, il y a trois acteurs principaux aux responsabilités partagées. Il y a les diables, il y a les parents, il y a les enfants. Mais quelle que soit l'activité du diable pour qu'il y ait des vauriens, sa mission et ses objectifs sont chaque fois atteints lorsqu'il trouve un complice actif ou passif, soit chez l'enfant, soit chez les parents. Cinquièmement, je termine par là. Parents, le diable est prêt à tout pour que nos enfants deviennent des vauriens. Il est prêt à faire même des heures supplémentaires. Le diable est prêt à mettre son temps, son intelligence, ses moyens et même son énergie. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens dira, nous n'ignorons pas ses desseins. Et le mot dessein veut dire activité réfléchie et planifiée. Maman Viviane, le diable a un bureau d'études. Où il reste, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour frapper Elise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Rohan attire les larmes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Gloria ne devienne pas ce qu'eux rêvent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le scandale arrive par Johanna? Il est prêt à mettre ses moyens, son temps, son énergie et toutes ces choses pour cela. Seigneur, aide-moi à le savoir. Aide-moi à ne pas laisser ces choses arriver. Un sacrificateur est mort en Israël à cause de la qualité de vie de ses enfants. Je prie un moment, 5 minutes simplement, et ici, et à Lisanga, que personne ne bouge un moment, je vous supplie. Mais je nous demande tous de nous lever, de nous tenir la main dans la main. Joël monte ici avec moi. Nous allons chanter ces cantiques. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. Et deux personnes vont prier. Des parents, présents ou futurs, vont dire, je ne fabriquerai pas de vauriens. Je ferai ce que je dois faire pour qu'il n'y ait pas de vauriens. Je m'éviterai de faire certaines choses qui fabriquent des vauriens. Mais deuxième personne qui va prier, si c'est un enfant qui va dire, je ne veux pas être un vaurien, ni sur le plan moralité, ni sur le plan étude, ni sur le plan limite, je me redonnerai du poids à mon géniteur, du poids à mon tuteur, du poids à mon père spirituel. Nous allons chanter ces cantiques. Les parents élèveront leur voix. Et les enfants aussi élèveront leur voix. Après quoi l'homme de Dieu va déclarer des choses. Et durant ce temps, nous prierons pour nous-mêmes, nous prierons aussi pour notre voisin, notre voisine. Refusez les mauvaises rencontres. La Bible dit, vous me servirez. Et vos enfants seront appelés serviteurs de l'Éternel. Réclamez ces promesses. Nous élevons nos voix. Et l'homme de Dieu va faire des déclarations et clore.
Alléluia. Alléluia. Refusez cela, refusez cela, refusez cela. Parents, refusez cela. Comme Jésus a prié pour Pierre, voyant dans l'esprit ce qui se tramait dans le secret, vous pouvez dire, j'ai prié pour toi afin que... Parce que le diable voulait te crimer comme offrement. Que les parents prient en citant le nom de leurs enfants. Que les parents prient en citant même le nom de leurs enfants. Que ce soit physique ou même spirituel. Et que les enfants prient aussi, afin qu'ils ne fassent point la honte de leurs parents, ni physique ou même spirituel. Oh là.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Lorsque Satan veut détruire quelqu'un, il introduit quelqu'un dans sa vie. Puis que ces personnes qui ont même déjà été introduites sortent de la vie de ta fille, de ton fils, de tes enfants. Que ces personnes s'éloignent de la prière fervente du juste à une puissante efficacité. Au nom de Jésus, j'aimerais que quelqu'un croie que sa prière est entendue de Dieu et sa prière est exaucée. Seigneur, nous te prions comme des enfants dans cette société où très tôt, un jeune peut avoir de brillantes finir de brillantes études, étudier dans les grandes écoles dans lesquelles les parents n'ont même pas étudié, ou université. Très tôt, les enfants peuvent toucher des montants que les parents n'ont pas touchés. Très tôt, les enfants peuvent aller là où les parents ne sont pas arrivés. Nous sommes dans une génération où les jeunes très tôt peuvent épater, éblouir leurs parents à telle enseigne que les parents même ne réalisent même pas qu'ils sont sortis d'eux. Mais nous sommes aussi dans une société où facilement ces jeunes tombent dans la suffisance, dans l'impolitesse, et finalement deviennent des enfants de vauriens. Finalement, deviennent orgueilleux, suffisants, et peuvent, comme le pasteur a dit tout à l'heure, peuvent insulter, lever la main sur leurs parents, croyant que ils sont de l'ancienne école, ils sont de la nouvelle école, et ils se sentent permis de tout. Seigneur, l'argent peut donner à quelqu'un la vitesse, mais ce sont les parents qui donnent la longévité. Le talent peut donner à quelqu'un la vitesse, mais ce sont les parents qui lui accorderont la longévité. L'onction peut donner à quelqu'un la vitesse, mais ce sont ses parents spirituels qui lui donneront la longévité. Et en tant qu'enfants, nous tous ici présents, nous prions Père pour, ne, pour ne pas nous leurrer la face, nous tromper par rapport aux choses que nous pouvons acquérir ou avoir, mais que nous puissions savoir que le fait de donner à nos parents du poids nous accordera certainement, non seulement la prospérité dans le temps présent, mais une prospérité qui traverse l'épreuve du temps et qui peut faire en sorte que nous puissions aller dans la gloire en ayant une bénédiction multigénérationnelle. Nous prions aussi pour les parents, afin que les parents ne soient jamais honteux et confus d'avoir eu les enfants qu'ils ont. Et que de manière biblique, de manière disciplinée, comme le dit la parole de Dieu, ils puissent élever leurs enfants. Que jamais les parents ne soient un mauvais exemple, un mauvais modèle. Nous prions que les parents eux-mêmes soient des exemples, que leur vie, que leurs actes parlent plus que les paroles et les conseils qu'ils donnent. Père, nous sommes dans une société de crise de modèles et de leadership. Nous prions, Père, que cela, l'année passée, tu nous as parlé sur les gens de pères que tu voulais dans le séminaire de famille. Nous prions, Père, que tu aides les parents afin que les parents d'aujourd'hui fassent la différence parce que eux sont dans le Seigneur et ils connaissent les principes bibliques de la parole de Dieu.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.